Bonjour à toutes et à tous. Pour certains, vous l'aurez sans doute entendu, cette semaine est consacrée aux Journées européennes de l'archéologie. Lancée pour la première année, le week-end du 19 et 20 juin par la communauté de communes Vallée de l'Hérault à l'abbaye d'Agnane. Alors hier, nous avons évoqué le projet de réhabilitation de la chapelle et du cloître. Début des travaux prévus fin 2021. Aujourd'hui, nous vous proposons un peu d'histoire sur l'abbaye d'Agnane et l'âge d'or médiéval avec Marie Christiani, chargée du patrimoine archéologique de la CCVH. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous tout sur ce monument historique fondé par Saint Benoît il y a plus de 1200 ans, au 8e siècle.
Exactement. Alors, on place la fondation de l'abbaye d'Agnane à l'année 782. Donc, en fait, on a une source principale pour évoquer la fondation de l'abbaye. C'est la vie de Saint Benoît qui a été écrite par un de ses contemporains. Enfin, voilà. Tout ça est un peu flou, mais c'est la source principale que l'on a. Donc, je pense que je vais commencer peut-être par présenter le personnage de Benoît, qui est quand même le personnage central de toute cette histoire. Donc, Benoît, c'est un noble wisigoth qui vivait dans le Languedoc médiéval, qu'on appelait alors la Septimanie, au 8e siècle.
Alors justement, qui sont les Wisigoths ?
Alors les Wisigoths, c'est un peuple venu de l'Est de l'Europe, qui est originaire des rives de la mer Noire, et qui, à la fin de l'Empire romain, est venu sur les terres de l'Empire romain, et qui est, entre autres peuples dits barbares, à l'origine de la chute de l'Empire romain.
Ce sont des Germains, en fait.
On ne peut pas appeler ça des Germains encore, c'est un peu anachronique, mais voilà, ce sont des peuples de l'Est qui déboule sur l'Empire romain au 5e siècle à peu près.
Et on rappelle quand même la mer Noire, c'est entre la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie, la Géorgie.
C'est assez lointain, donc c'est des peuples qui se sont bien déplacés, poussés eux-mêmes par des invasions qui venaient encore plus de l'Est. Voilà.
Et alors du coup, alors ils sont venus donc dans la Septimanie, c'est une province, c'est quoi en fait la Septimanie?
La Septimanie, ça correspond à peu près au Languedoc, c'est une province qui était constituée de 7 évêchés, d'où le terme de Septimanie.
Et donc Benoît, donc c'est un Wisigoth, et alors qu'est-ce qu'il a fait ce Saint Benoît?
Donc ce Benoît, effectivement, c'est un... probablement un aristocrate, un fils d'aristocrate wisigoth. Il naît à une époque où le roi Pépin le Bref, donc franc, va venir envahir la Septimanie et rattacher ce lieu au royaume franc. Et donc, il semblerait que le père de Saint Benoît, qui s'appelait alors Vitiza, ait pactisé avec les Francs. Et donc, il a envoyé son fils Benoît être éduqué à la cour de Pépin le Bref, aux côtés de Charlemagne, qui donc est le fils de Pépin le Bref. Donc, notre Saint Benoît est un proche de Charlemagne. Ils grandissent ensemble, ils partent faire des campagnes militaires dans le nord de l'Italie, en Lombardie, ensemble. Et à l'occasion d'une de ces campagnes militaires, notre Vitiza, futur Benoît, a une révélation religieuse et décide, à l'issue de cette campagne militaire, de partir se former en Bourgogne pour devenir moine. Donc, il se rend dans un monastère de Bourgogne, donc le monastère de Saint-Seine. C'est un moine très impliqué dans la vie de la communauté, très strict, qui applique la règle religieuse de manière très stricte. Et on lui propose finalement le poste d'abbé dans cette abbaye de Saint-Seine. Il refuse et revient dans sa région d'origine, donc l'ancienne Septimanie.
Et pourquoi il refuse ?
Alors ça, l'histoire ne le dit pas forcément, mais il décide de revenir dans sa région d'origine et on suppose que ça viendrait peut-être d'une volonté politique de Charlemagne de réimplanter le dogme catholique romain sur les terres de Septimanie, où à l'époque il y avait ce qu'on appelle une hérésie qui s'appelle l'arianisme et qui ne reconnaissait pas la Trinité, qui est le dogme principal de la religion catholique romaine, donc qui est liée à la papauté. Donc peut-être que notre Benoît est un envoyé de Charlemagne qui va restaurer la religion catholique dans une région où c'est l'arianisme qui est prépondérant.
Est-ce qu'on a retrouvé des reliques de Saint Benoît à Agnane ?
Alors malheureusement, non. Saint-Benoît a fini sa vie à côté d'Aix-la-Chapelle, donc au service de Charlemagne, dans un monastère dans la ville de Hinden. Donc non, nous n'avons pas retrouvé les reliques de Benoît, contrairement à Gélone, où il y a des reliques de Saint-Guilhem.
Et alors, donc, Saint-Benoît, c'était un bénédictin ?
Oui, c'est un bénédictin. Mais qu'est-ce que veut dire être un bénédictin ? Donc, quand on parle de monastère ou de moine bénédictin, on parle en fait de moines qui sont soumis à la règle de Saint-Benoît. Donc, Saint-Benoît, le nôtre, est en fait le deuxième Saint-Benoît de l'histoire. Le premier Benoît, c'est un moine italien de Nurcie qui a fondé la règle bénédictine. Donc il faut savoir que tous les monastères sont soumis à une règle qui leur impose un mode de vie, des horaires de travail, des heures de prière, etc. Et donc chaque monastère vit selon une règle. La règle bénédictine, fondée par Saint-Benoît de Nurcie au VIe siècle, c'est la règle la plus... c'est une règle qui est très répandue et que Saint-Benoît d'Anian va légèrement modifier et faire appliquer à l'échelle de l'Empire carolingien. Donc en fait, il va uniformiser les pratiques monachiques de tout l'Empire carolingien et cette règle va être en vigueur jusqu'au XIe siècle. Tous les monastères en Occident vivent sous la règle de Saint-Benoît.
L'Empire carolingien, ça comprend quel territoire ?
Alors, c'est donc l'Empire de Charlemagne et ça comprend la France, une partie de l'Italie, une partie de l'Allemagne. C'est un empire assez vaste, mais qui n'a pas vraiment perduré par la suite.
Donc là, vous parliez donc des règles bénédictines, mais on est sous l'époque aussi de la seigneurie.
Oui, alors... En fait, on est dans des abbayes qui sont très puissantes, qui sont des équivalents de seigneuries. En fait, les seigneurs et les monastères se partagent en fait plus ou moins le territoire. Et donc, l'abbaye d'Anian, avec le temps, donc après sa fondation en 782, elle se développe énormément. Elle acquiert de plus en plus de terres. Les aristocrates de la région font des dons de terre à l'abbaye. C'est une manière pour eux de faire une bonne action et d'être sûr de pouvoir aller au paradis après leur mort. Voilà.
Et que font les moines, justement? Donc, ça veut dire qu'ils sont impliqués dans l'agriculture, dans l'exploitation des terres, au niveau maraîchage, etc.
Donc, dans un monastère, il y a différents types de moines qui, chacun, ont leur rôle. Il y a certains moines qui travaillent la terre. Il y a d'autres moines, comme par exemple le célérier, qui est un des moines les plus importants, qui, lui, va faire la comptabilité de toutes les denrées alimentaires qui entrent et qui sortent de l'abbaye. Bon, il y a l'abbé, évidemment, qui supervise tout ce petit monde. Et puis aussi, les personnes, les laïcs qui vivent sur le territoire de l'abbaye travaillent au bénéfice de l'abbaye.
C'est une micro-société, en fait.
Exactement. C'est un petit monde clos.
Et donc, ils revendent toutes les denrées alimentaires qui sont produites au sein de l'abbaye. Et donc, effectivement...
Ils en utilisent une partie pour eux, bien sûr, et pour le fonctionnement de l'abbaye, mais on fait...
Ça veut dire qu'à cette époque, ce sont les moines les seuls à exploiter la terre avec les seigneurs ?
Le laïc lambda, la personne lambda, qui n'est pas un propriétaire terrien, qui n'est pas un seigneur, la terre qu'il travaille ne lui appartient pas. Et c'est ce qu'on va appeler plus tard le système du servage, où donc ce sont des serfs qui travaillent pour leur seigneur, donc qui bénéficient de protection. Alors voilà, en théorie, après on imagine que c'était évidemment un système totalement inégalitaire voilà. Mais effectivement, les seuls laïcs qui possèdent des terres, ce sont les seigneurs. Et ensuite, c'est l'Église qui possède une autre partie des terres par le biais des monastères.
Et est-ce qu'on a une idée du nombre de moines qu'il y avait dans l'abbaye d'Anian ?
Non, là, je ne peux pas vous donner de réponse, surtout que ça dépend forcément des périodes. Il y a des périodes, on sait pour l'époque moderne, qu'à certains moments, il n'y a qu'une vingtaine de moines qui subsistent dans le monastère. À d'autres périodes où l'abbaye est florissante, on imagine qu'il y a beaucoup plus de moines. Mais voilà, ça dépend des périodes.
Et alors, il y a tout un lien aussi avec Gélone, Guilhem de Gélone.
Oui, exactement. Donc, l'abbaye de Gélonne, donc de Saint-Guilhem-le-Désert, est en fait une abbaye fille de l'abbaye d'Agnane. Donc, c'est une fondation de l'abbaye d'Agnane, mais qui a été faite au nom de... Enfin, qui est patronnée, on va dire, par Saint-Guilhem. Et d'ailleurs, le village aujourd'hui porte le nom de ce personnage. Et donc, à l'origine, ce sont des abbayes qui fonctionnent plus ou moins ensemble. Seulement, l'abbaye de Gélonne, possédant les reliques de Saint-Guilhem, elle attire beaucoup les pèlerins et elle a tendance à se développer de manière assez forte à côté d'Agnane. Et les deux abbayes vont rentrer en conflit pour savoir qui allait avoir le plus d'importance. Et puis l'abbaye de Gélonne finit par devenir indépendante de l'abbaye d'Agnane. Elle n'est plus contrôlée par l'abbaye d'Agnane. Et malgré ces petites péripéties entre les deux abbayes, elles vont quand même, à un moment donné, se rejoindre pour construire le fameux pont du diable qui crée finalement un lien, malgré tout, entre les deux abbayes.
Et alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est la légende du pont du diable ?
Oui, alors il y a effectivement une légende qui entoure la construction du pont du diable. Donc, l'histoire nous raconte que chaque matin, les moines des deux abbayes qui s'emploient à construire le pont se rendent compte que le travail qu'ils ont fait la veille a été détruit pendant la nuit et cette situation dure pendant des jours. Donc, au bout d'un moment, ne sachant plus que faire, ils en appellent à leur patron, leur saint patron, donc Saint-Guilhem, qui se présente et qui reste toute la nuit sur le pont, enfin sur le pont, les petites parties déjà construites, pour savoir ce qui se passe. Et une nuit, il aperçoit le diable déguisé en bouc qui vient détruire l'ouvrage qui a été réalisé la veille. Alors, il entame une conversation avec le diable et passe un marché avec lui. Le diable demande que la première âme à traverser le pont lui soit remise s'il laisse le pont se construire. Et Saint-Guilhem lui demande même au diable de construire lui-même le pont en 3 jours. Le diable accepte, donc pendant 3 jours, il est à l'ouvrage, il réussit à construire un pont extrêmement solide. Et arrivé la fin du 3e jour, Guilhem se présente avec les moines des deux communautés et le diable réclame la première âme qui passera sur le pont. Et à ce moment-là, Guilhem, qui est accompagné d'un chien, jette quelques os de l'autre côté du pont et le chien traverse le pont. Donc il s'agit de la première âme à traverser le pont. Le diable, qui s'attendait bien sûr à récupérer une âme humaine, est bien embêté. Il menace de se venger et de détruire le pont. Seulement, il l'a construit de manière tellement solide qu'il ne peut même pas se venger. Et donc, il se jette dans le fleuve.
Dans le fleuve, et ça crée la crevasse du pont du diable.
Voilà.
C'est ça, les gorges du pont du diable. Ça doit être ça, en tout cas. Merci de nous avoir parlé de cette légende et de l'histoire de l'abbaye d'Agnane, de sa fondation et de cette époque de l'âge d'or. Pourquoi on appelle, juste pour finir, l'âge d'or médiéval, cette période-là ?
Parce que c'est une période où l'abbaye est très florissante. Elle acquiert énormément de domaines. Et voilà, tout simplement, c'est une époque florissante pour l'abbaye, car vous verrez dans les prochains épisodes que il va y avoir des péripéties à venir.
Oui. Donc c'est la fin de l'épisode sur l'histoire de l'abbaye d'Agnane, ses fondations et l'âge d'or médiéval. N'hésitez pas à écouter en podcast cet épisode sur rphfm.org. Merci Marie Christiani, chargée du patrimoine archéologique de la CCVH. À noter dans vos agendas les journées européennes de l'archéologie le week-end du 19 et 20 juin à l'abbaye d'Agnane, lancée pour la première année par la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Plus d'infos sur le site de l'Office de tourisme saint-guilhem-vallée-hérault.fr. Et on se retrouve demain pour un nouveau épisode sur la destruction et la reconstruction de l'abbaye par les mauristes. C'est bien ça, Marie ?
C'est tout à fait ça.
Alors à demain.
À demain.